Chapitre 100, où il est démontré qu'il est dangereux, non pas de recevoir, mais de donner des reçus. À peine Mademoiselle Fifine avait-elle disparu, à peine Salvatore avait-il mis dans son portefeuille les 10 000 francs et dans sa poche les 9 liasses intactes et la liasse écornée, que la porte de Gibassier s'ouvrit et que ce digne industriel parut sur le seuil, vêtu d'un simple pantalon de molleton blanc, la tête coiffée d'un foulard et les pieds chaussés de pantoufles dorées. Les coups que la grande fille avait frappés à la porte, les tendres appellations dont elle les avait accompagnées, le cri d'alarme qu'elle avait poussé en reconnaissant Salvatore, l'espèce de lutte qui avait été la suite de cette rencontre, avaient troublé, comme nous l'avons dit, le sommeil de l'honnête gibassier, si bien que, voulant se rendre compte de ce qui se passait sur son palier, il avait fini par s'arracher aux douceurs du sommeil, avait sauté à bas de son lit, avait passé son pantalon à pied, chaussé ses pantoufles, et était venu à pas de loup ouvrir la porte. N'y entendant plus aucun bruit, il s'attendait à trouver le palier vide. Il fut donc assez étonné de voir Salvatore, nous devons même dire, à l'éloge de la prudence de Gibassier, qu'en apercevant un inconnu devant sa porte, son premier mouvement fut de la refermer. Mais Salvatore, qui connaissait le forçat aussi bien de figure que de réputation, qui savait la part qu'il avait prise à l'enlèvement de Mina, qui le surveillait soit directement, soit indirectement depuis cette époque, n'avait pas pris tant de peine à le retrouver pour le laisser apparaître et disparaître ainsi. Il opposa donc, en étendant la main à son intention de refermer la porte et l'abordant avec toute la courtoisie dont il était capable, « C'est bien à monsieur Gibassier que j'ai l'honneur de parler, » demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit Gibassier en le regardant d'un air aussi soupçonneux que lui permettaient de le faire ses yeux encore tout bouffis. « À qui ai-je l'honneur de parler ?»« Vous ne me connaissez pas ?» demanda Salvatore en poussant doucement la porte. « Ma foi non, » dit le forçat, « quoique bien certainement j'ai vu votre figure quelque part, mais du diable ou je sais où. »« Mon habit vous indique ce que je suis, » dit Salvatore. « Commissionnaire, je le vois bien, mais comment vous nomme-t-on » ?»« Salvatore. »« Ah, ne vous tenez-vous point d'habitude au coin de la rue au fer ?» demanda Gibassier avec une sorte d'effroi. « Précisément. Et que me voulez-vous »« C'est ce que j'aurai l'honneur de vous dire si vous me permettez d'entrer. »« fit Gibassier avec hésitation. » « Vous défieriez-vous de moi ?» demanda Salvatore en se glissant entre la porte et la muraille. « Moi, » dit Gibassier, « à quel propos me défierais-je de vous ? Je ne vous ai jamais rien fait. Pourquoi me voudriez-vous du mal ?»« Aussi ne vous veux-je que du bien, » dit Salvatore, « et je viens pour vous en faire. » Gibassier poussa un soupir. Il croyait aussi peu au bien que les autres lui voulaient faire qu'à celui qu'il voulait faire aux autres. « Vous doutez ?» dit Salvatore. « J'avoue que je n'ai qu'une médiocre confiance, » répondit le forçat. « Vous allez en juger. »« Alors donnez-vous la peine de vous asseoir. »« C'est inutile, » dit Salvatore, « je suis très pressé. » »« Et en deux mots, si l'affaire que je viens vous proposer vous convient, cette affaire sera conclue. »« Comme vous voudrez, mais moi je m'assieds, » dit Gibassier, qui se ressentait encore par une certaine courbature répandue en tout son corps des mésaventures de la nuit. « Là, » ajouta-t-il, en s'accommodant sur une chaise, « maintenant, si vous voulez me faire connaître ce qui me procure l'honneur de vous voir, j'attends. « Pouvez-vous disposer d'une semaine ?» demanda Salvatore. Cela dépend de l'emploi qu'on me demandera de faire de cette semaine. C'est la 1716e partie de la vie d'un homme, en admettant la dernière statistique qui règle la moyenne de la vie d'un homme à 33 ans. « Mon cher monsieur Gibassier, » dit Salvatore, souriant de son plus doux sourire, « en adoptant cette moyenne pour le reste de l'humanité, je vois avec bonheur que vous faites exception à la règle, et quoique vous ne paraissiez pas beaucoup plus de 33 ans, vous avez néanmoins incontestablement dépassé cet âge. » « Dois-je m'en louer ?» répondit philosophiquement et mélancoliquement à la fois le digne Gibassier. « La question n'est pas là, » dit Salvatore. « Où est-elle alors ? Elle est dans ce que, ayant dépassé l'âge fatal, vous irez, selon toute probabilité, jusqu'au double de la moyenne, c'est-à-dire jusqu'à 66 ans, ce qui fait qu'une semaine n'est pour vous que la 3400e partie de la vie. Et remarquez que je ne vous dis point cela pour marchander le prix de votre semaine, mais pour rectifier votre jugement sur votre propre longévité. Oui, dit Gibassier, qui paraissait convaincu en cet endroit, mais l'emploi de cette semaine me sera-t-il agréable ? Agréable et profitable. Vous aurez réuni ce qui est si rare ici-bas, le précepte d'Horace dont il n'est point probable qu'un savant comme vous n'ait cultivé les œuvres. Utile dulci. De quoi s'agit-il ? Demanda Gibassier, qui, artiste en son genre, se laissait entraîner au pittoresque de la conversation. Il s'agit de voyages. Ah, bravo ! Vous aimez les voyages ? Je les adore. Ah, voyez, cela tombe à merveille. Et quel pays dois-je parcourir ? L'Allemagne. Ah, Germania mater, de mieux en mieux, s'écria Gibassier. Je suis d'autant plus à même de servir en Allemagne que je connais parfaitement ce pays et que mes voyages y ont toujours été heureux. On sait cela, et voilà pourquoi la proposition vous est faite. La réussite de l'affaire est mise littéralement sous la sauvegarde de votre bonheur. Plaît-il ? Demanda Gibassier, qui, encore un peu étourdi de sa lutte avec le charpentier, avait entendu « honneur ».« Bonheur !» accentua Salvator. « Très bien, dit Gibassier. Eh bien, voyons, tout cela devient possible. Je serais enchanté d'avoir une occasion de quitter la France pour quelques jours. Voyez comme cela tombe. Ma santé s'altère à Paris. » En effet, dit Salvator, vous avez les yeux bouffis, le cou violacé, le sang vous porte à la tête. Ah, c'est au point, mon cher monsieur Salvator, que cette nuit, telle que vous me voyez, répondit Gibassier, j'ai failli mourir d'une apoplexie foudroyante. Heureusement, demanda naïvement Salvator, vous avez été saigné à temps. Oui, répondit Gibassier, saigné, copieusement même. Heureuse disposition pour se mettre en voyage, on est léger. Oh, très léger. Je puis donc aborder la question ? Abordez, mon cher monsieur, abordez. De quoi s'agit-il ? De quelque chose de très simple. Il s'agit de remettre une lettre. Voilà tout. Grommela entre ses dents Gibassier, dans l'esprit duquel mille soupçons entrèrent de nouveau. Envoyer un homme en Allemagne uniquement pour porter une lettre quand le service de la poste est si admirablement organisé, diable, diable. Vous dites, demanda Salvator en l'examinant avec attention. Je dis, dit Gibassier en hochant la tête, que c'est une diablesse de lettre que vous avez à envoyer là, car si c'était une lettre comme toutes les lettres, vous ne l'expédieriez point, je suppose, à si grands frais. « Vous avez raison, dit Salvator, c'est une lettre de la plus haute importance. »« Politique, j'imagine ?»« Entièrement politique. »« Mission tout à fait délicate ?»« D'une délicatesse toute particulière. »« Dangereuse, par conséquent. »« Dangereuse, si toutes les précautions n'étaient pas prises. »« Comment entendez-vous les précautions ?»« En ce que cette lettre sera tout simplement un papier blanc tout ouvert. »« Mais l'adresse ?» On vous la dira de vive voix. Alors la lettre est écrite avec une encre sympathique. De l'invention de la personne qui l'écrit, invention qui défie messieurs Thénard et Orfila eux-mêmes. Oh, mais la police est un bien autre chimiste que messieurs Thénard et Orfila. Oh, cette encre défie la police elle-même, et je suis bien aise de vous dire cela, mon cher monsieur Gibassier, pour qu'il ne vous prenne pas l'envie d'aller vendre cette lettre à monsieur Jacal, le double de ce qu'on vous aura donné pour la porter. Monsieur, fit Gibassier en se redressant, vous me croyez donc capable ? La chair est faible, répondit Salvator. C'est vrai, murmura le forçat avec un soupir. Vous voyez donc, continua Salvator, que vous ne risquez absolument rien. Vous dites cela pour obtenir de moi que j'accomplisse ma mission au rabais. Pas le moins du monde, la mission sera rétribuée en raison de son importance. Mais qui en fixera le prix ? Vous-même. Il faut d'abord que je sache où je vais. À Heidelberg. Ah, très bien. Quand dois-je partir? Le plus tôt possible. Demain, est-ce trop tôt? Ce soir serait mieux. Ah, je suis bien fatigué pour partir ce soir. J'ai eu une mauvaise nuit. Agité? Très agité. Eh bien, va pour demain matin. Maintenant, mon cher monsieur Gibassier, combien demandez-vous? Pour aller à Heidelberg? Oui. Y aura-t-il séjour? Le temps de prendre la réponse à la lettre et de revenir. Eh bien, 1 000 francs, est-ce trop? Je vous demanderai au contraire, est-ce assez? Oh, je suis économe, en économisant, j'y arriverai. Et voilà qui est dit, 1 000 francs pour porter la lettre, mais pour apporter la réponse, ce sera le même prix. 2 000 alors, 1 000 francs pour aller et 1 000 francs pour revenir. 1 000 francs pour aller, 1 000 francs pour revenir, c'est bien cela. Maintenant, ceci est réglé pour la dépense matérielle de voyage, reste à régler le côté de confiance, le prix de la mission elle-même. Ah, le prix de la mission n'est pas compris dans les 2 000 francs. Vous voyagez pour une maison puissamment riche, mon cher monsieur Gibassier, aussi 1 000 francs de plus ou de moins. Est-ce trop de demander 2 000 francs? Vous êtes on ne peut plus raisonnable. Ainsi donc 2 000 francs pour les dépenses du voyage, 2 000 francs pour la mission accomplie. En tout 4 000 francs. Et en prononçant ces mots, Gibassier poussa un soupir. Trouvez-vous que ce soit trop peu? Demanda Salvator. Non, je pense. À quoi? À rien. Gibassier mentait. Il pensait à la peine qu'il allait avoir pour gagner 4 000 francs, quand il en avait quelques heures auparavant, avec tant de facilité et sans se déranger, gagné 500 000. Cependant, dit Salvator, cœur qui soupire n'a point ce qu'il désire. La convoitise de l'homme est insatiable, dit Gibassier, répondant à un proverbe par une sentence. Notre grand moraliste La Fontaine a fait une fable là-dessus, dit Salvator, mais revenons à nos moutons. Il fouilla dans sa poche. Avez-vous la lettre? Demanda Gibassier. Non, elle ne devait être écrite que si vous acceptiez la mission. Eh bien, j'accepte. Réfléchissez bien avant de prendre cette mission. Je réfléchis. Vous partirez demain, au point du jour. Salvator tira son portefeuille de sa poche, l'ouvrit et laissa voir à Gibassier tout un nid de billets de banque. Ah, fit Gibassier, comme si à cette vue un poignard lui traversait le cœur. Salvator parut ne rien remarquer, il sépara 2 billets des autres et s'adressant à Gibassier, il n'y a pas de marché sans art, voici les frais de voyage. À votre retour, quand vous rapporterez la réponse à la lettre, vous aurez les 2 autres 1 000 francs. Gibassier hésitait à étendre la main. Salvator laissa tomber les billets sur la table. Le forçat les prit, les examina avec attention, palpant leur épaisseur entre le pouce et l'index, étudiant leur transparence en les interposant entre la lumière et lui. Excellent, dit Gibassier. Ah, ça, me croyez-vous donc capable de vous donner de faux billets? Oh, non, mais vous auriez pu être trompé vous-même. Depuis quelque temps, il se fait de tels progrès en industrie. À qui le dites-vous? Fit Salvator. Alors, je vous reverrai ce soir. À quelle heure serez-vous à la maison? Je ne quitterai pas ma chambre. Ah oui, la courbature, justement. Eh bien, sur les 9 heures, si vous voulez. Va pour les 9 heures. Et Salvator s'achemina vers la porte. Il avait déjà la main sur la clé lorsque tout à coup, bon, dit-il, j'allais être obligé de revenir de l'autre bout de Paris. Comment cela? J'oubliais une toute petite chose. Laquelle? De vous demander un reçu. Vous comprenez bien que cet argent n'est pas à moi. Un pauvre commissionnaire n'a pas une dizaine de 1 000 francs dans son portefeuille et ne paie pas ses courriers 4 000 francs. Cela m'étonnait aussi. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment cela ne vous a point inspiré de défiance. Je commençais à en avoir, dit Gibassier. Allons, donnez-moi un petit reçu de 2 000 francs et tout sera dit. Rien de plus juste, fit Gibassier, attirant à lui son écritoire et une feuille de papier, puis se retournant vers Salvator. Un simple reçu, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, oui, tout ce qu'il y a de plus simple. Sans désignation. Valeur en compte, nous savons en quel compte, c'est tout ce qu'il faut. » Gibassier, soit machinalement, soit que, connaissant la facilité des billets à s'envoler, il craignait que ceux-ci ne lui échappassent, Gibassier les fixa sur la table avec son coude gauche et se mit à confectionner le reçu de sa plus belle écriture. Puis il le tendit à Salvator, qui le lut attentivement et, d'un air de satisfaction, le plia et le mit lentement dans sa poche. Gibassier le regardait faire avec une certaine inquiétude. Ce sourire de Salvator lui déplaisait. Mais ce fut bien autre chose lorsque Salvator, croisant les bras et regardant Gibassier en face, lui dit, en donnant à son sourire l'expression de la raillerie la plus complète, « Il faut convenir, maître escroc, que vous êtes à la fois d'une rare impudence et d'une suprême sottise. » Comment, vous avez la niaiserie de croire à des contes pareils à ceux que je vous fais? Comment, vous êtes assez imbécile pour vous laisser prendre à un piège d'enfant? C'est à ne pas y croire. Comment, vous ne vous êtes pas défié, après votre aventure de cette nuit, des recherches que l'on pourrait faire? Vous n'avez pas songé que si l'on n'avait qu'un simple soupçon sur vous, rien n'était plus facile que de vous demander une ligne de votre écriture? Mais êtes-vous assez sot, et volez-vous assez impudemment l'argent que vous donne monsieur Jacal? Or ça, monsieur le comte Ercolano, asseyez-vous et écoutez-moi. » Gibassier avait écouté le commencement de ce discours avec un étonnement croissant. En voyant la sottise qu'il avait faite de donner à Salvator un reçu de son écriture, il voulut reprendre ce reçu et, à cet effet, avait commencé un mouvement pour se jeter sur lui, mais sans doute Salvator, qui prévoyait tout, avait prévu cette agression, car il tira de sa poche un pistolet tout armé qu'il posa sur la poitrine du forçat, en même temps qu'il lui disait « Or ça, monsieur le comte Ercolano, asseyez-vous et écoutez-moi. » Il en résulta que Gibassier, désarmé dans sa lutte nocturne avec Jean Taureau, et d'ailleurs plus homme de ruse que de violence, jugea, au commandement de Salvator, qu'il n'avait d'autre parti à prendre que celui d'obéir, et tomba, plutôt qu'il ne s'assit, sur une chaise, le visage verdâtre et ruisselant de sueur. Gibassier comprenait que, comme le maréchal de Villeroy, il en était arrivé à cette époque de la vie où la fortune nous abandonne et où l'on n'a plus que des défaites à attendre. Salvator passa de l'autre côté de la table, s'assit en face de Gibassier et renoua la conversation en ces termes tout en jouant avec son pistolet. Vous avez été condamné au bagne pour vol et faux, bien prouvé, et vous avez failli être condamné à mort pour meurtre. Seulement, le meurtre n'ayant pas été prouvé, vous avez échappé à la mort. Le meurtre avait eu lieu dans une maison infâme de la rue Froidmanteau, sur un provincial nommé Claude Vincent. Il avait été commis de complicité avec la naine Bébé et Mademoiselle Fifine. Je puis prouver que c'est vous qui avait porté le premier coup, un coup de chenet qui a renversé le malheureux évanoui, et comme il a été achevé par les deux coquines, dont l'une est déjà pour autre chose entre les mains de la justice, et dont l'autre vous rapportait ce matin les 500 000 francs que vous avez volés à la comtesse Rapt, et que je vous ai fait reprendre, je puis demain vous mettre, vous et Mademoiselle Fifine, entre les mains dont monsieur Jacal, tout-puissant qu'il est, se gardera bien de vous tirer. Croyez-vous que j'ai ce pouvoir et que vous couriez quelque risque à ne pas suivre en tout mes volontés ?»« Je le crois, » murmura tristement Gibassier. « Attendez, nous ne sommes pas au bout. Quelques jours après vous être échappé du bagne, vous avez enlevé une jeune fille d'un pensionnat de Versailles sur les ordres de monsieur Laurédan de Valgeneuse. Vos complices, après vous avoir volé la part d'argent qui vous revenait de cette belle expédition, vous ont jeté dans un puits d'où vous attirait monsieur Jacal. Depuis ce jour, vous êtes sa créature dévouée, mais ni vous ni lui n'avez pu empêcher que je ne reprisse Mina à monsieur de Valgeneuse et ne la mis en sûreté. Vous voyez donc, maître coquin, que je puis lutter contre vous et réussir malgré vous. Aujourd'hui, il s'agit d'une chose encore plus grave, je vous le déclare, que l'enlèvement d'une jeune fille, d'une chose à laquelle je sacrifierai, s'il le faut, non seulement les 500 000 francs que je vous ai fait reprendre cette nuit, mais encore le double, le triple, le quadruple de cette somme. Or, malheur à ceux qui se trouveront entre moi et mon but, car je les briserai comme verre. Ami, on aura tout à gagner, ennemi, tout à perdre. Écoutez-moi donc de toutes vos oreilles. Je vous écoute. Quand s'écoule le délai accordé à l'abbé Dominique pour aller à Rome? Il est écoulé à partir d'aujourd'hui. Quand M. Saranti doit-il être exécuté? Demain, à 4 heures de l'après-midi. Salvatore pâlit et frissonna malgré lui à cette certitude donnée par l'immonde coquin auquel il avait affaire, mais il se remit comme un homme à qui il reste une suprême espérance, et changeant brusquement de conversation. « Vous connaissez l'honnête M. Gérard de Vanvres ?» demanda Salvatore. « Il est mon collègue et mon ami, » répondit Gibassier. « Je sais cela. Vous a-t-il déjà invité à venir visiter sa campagne ?»« Jamais. » « L'ingrat, comment par ces belles journées d'été, l'idée ne lui est seulement pas venue d'inviter un ami à un déjeuner champêtre dans son château de Vanvres ?»« L'idée ne lui en est pas venue. » De sorte que si l'occasion se présentait de le punir un peu de son ingratitude à votre endroit, vous ne seriez pas homme à laisser perdre cette occasion. En vérité, non, je suis trop susceptible pour cela. Eh bien, je crois que cette occasion s'offre à vous aujourd'hui même. Vraiment? Monsieur Gérard vient d'être nommé maire de Vanvres. Il y a des gens bien heureux, murmura Gibassier en poussant un soupir. « Bon, dit Salvatore, avec de la patience, ce même bonheur peut vous arriver. Vous avez seulement tenté de tuer, vous. Monsieur Gérard a tué tout à fait. Vous avez été au bagne, lui est destiné à y aller s'il ne va pas plus loin. Après cela, si, victime de l'amitié que vous lui portez, vous voulez donner au moderne un de ces grands exemples de fraternité que l'Antiquité nous a transmis, et comme Nisus mourir pour votre Rial, non, je crois que c'est plus prudent. Alors il faut faire de point en point ce que je vais vous dire. Et en le faisant, vous ne courrez d'autre danger que d'aider un honnête homme à accomplir une bonne action. Ce n'est pas assez, je le sais, pour un esprit aussi méticuleux que le vôtre, mais en aidant cet honnête homme à accomplir une bonne action, vous rentrerez dans une avance de 10 000 francs, avance que vous croyiez perdue. Ah oui, les 10 000 francs que j'ai prêtés à mon filleul, justement. Ah, par ma foi, vous avez bien raison, je les croyais perdus. Eh bien, ils ne le sont pas, et la preuve, c'est qu'en voici 2 000 que vous pouvez déjà mettre dans votre poche. » Salvatore présenta à Gibassier les 2 000 francs qui étaient sur la table. « Et qu'en voilà 3 000 autres que vous pouvez adjoindre au premier. » « Et pour cela, » demanda Gibassier, « il ne vous faut pas de reçu. » « Allons, » fit Salvatore, « vous êtes un homme d'esprit. » « Oui, et c'est cela qui me perd. Trop d'imagination, monsieur, trop d'imagination. Mais continuez, que faut-il faire? Où faut-il aller? Il faut aller à Vanvres. Ah, ce n'est pas très loin. Vous alliez bien à Heidelberg pour 4 000 francs, vous irez bien à Vanvres pour 10 000. Pour 5 000. Pour 10 000, attendu que vous aurez les 5 000 autres quand vous en serez revenu. Je suis prêt à aller à Vanvres, mais que dois-je faire à Vanvres? « Je vais vous dire cela. En l'honneur de sa nomination de maire, M. Gérard donne aujourd'hui un dîner de tous couverts. Il ne vous a pas invité, de peur que vous ne soyez très à table et que cela ne lui porte malheur. »« J'ai remarqué en effet qu'il était très superstitieux, » dit Gibassier. « Eh bien, il me semble que c'est le cas ou jamais d'aller le relancer là-bas et de lui donner une leçon de courtoisie. Qu'en pensez-vous ? » Je n'en pense rien, je ne vous comprends pas. Je vais alors être aussi clair que possible. Je vous disais donc que M. Gérard, votre collègue, avait aujourd'hui une 12aine de personnes à dîner, et entre autres son adjoint, son juge de paix, et 3 ou 4 de ses conseillers municipaux. Eh bien, pour une raison qu'il est inutile de vous dire, j'ai besoin que M. Gérard soit absent de chez lui juste au milieu de ce dîner, pendant 1 heure ou 2. Et, cher monsieur Gibassier, j'ai compté sur vous pour l'accomplissement de ce projet. De quelle façon puis-je vous y aider, monsieur Salvatore? D'une façon très simple. Monsieur Gérard ne peut, dans sa position vis-à-vis de la police, refuser d'obéir à un ordre de monsieur Jacqual. C'est matériellement impossible. Eh bien, supposez que M. Jacqual ordonne à M. Gérard de se rendre immédiatement et tout affaire cessante à l'hôtel de la Tête Noire à Saint-Cloud. M. Gérard devra se rendre à l'instant même à l'endroit où M. Jacqual lui aura fait dire qu'il l'attend. C'est mon avis. Alors, vous comprenez tout à fait l'affaire. Vous allez vous rendre à Vanvres chez M. Gérard, juste au moment de son dîner, à 6h30. Pour profiter des derniers beaux jours, on se met à table à 5h et dans le jardin. Vous arrivez donc là, à l'entremets environ. Vous vous approcherez, l'œil amical, la lèvre souriante, et vous direz « Cher collègue, M. Jacqual, notre maître commun, vous prie de vous rendre à l'instant même et pour affaire de la plus haute importance, à l'hôtel de la Tête Noire à Saint-Cloud. » Est-ce là tout ce que vous exigez de moi ? Absolument tout. Cela me semble assez facile, je dis assez, mais je me trompe cependant. Comment cela ? Oui, car je vais encourir la colère de M. Jacqual. Voyons, n'y aurait-il pas un moyen plus avantageux de faire sortir M. Gérard de chez lui ? Ah, croyez, cher M. Gibassier, dit Salvatore, que si je connaissais un moyen plus avantageux, comme vous le dites, je m'empresserais de vous le proposer, mais il n'y en a point de préférable à celui que je vous offre, car remarquez qu'il ne s'agit pas seulement de faire sortir M. Gérard de chez lui, mais de le retenir dehors pendant 2 heures. Or, 3/4 d'heure pour aller de Vanvres à Saint-Cloud, 1/2 heure pour attendre inutilement M. Jacqual, 3/4 d'heure pour revenir font juste les 2 heures dont j'ai besoin. N'en parlons plus, monsieur Salvatore, il sera fait comme vous le désirez, quoique, à vrai dire, j'aime peu à affronter la colère du patron. Vous pouvez l'éviter. Comment cela ? Rien de plus simple. Vous ne quittez pas monsieur Gérard, vous le suivez à Saint-Cloud, vous avez l'air de vous ennuyer avec lui du retard de monsieur Jacqual, et puis, au bout 1/2 heure, vous éclatez de rire et vous lui dites « Eh bien, cher monsieur Gérard, que pensez-vous de la farce que je vous ai faite ?»« Eh, eh, eh !»« Quelle farce » demandera-t-il. « Mais, lui direz-vous, c'est bien simple. J'ai appris par la voie publique que vous donniez une petite fête champêtre dans votre villa de Vanvres. Vous ne m'aviez pas fait l'amitié de m'inviter. J'ai trouvé cet oubli impardonnable et je me suis vengé de ce mauvais procédé en vous mystifiant. » M. Jacqual n'avait pas le moins du monde à faire à vous, et je n'étais chargé de rien d'autre chose que de vous présenter bien des compliments de sa part, sur quoi vous lui tirerez votre révérence et le laisserez libre de rejoindre ses convives. Il en résulte que vous n'aurez encouru la colère de personne, si ce n'est celle de M. Gérard, et de celle-là, je crois, vous vous souciez fort peu. » Gibassier regarda Salvatore avec admiration. « Ah, décidément, dit-il, vous êtes un grand homme, monsieur Salvatore, et si ce n'était pas trop demandé de vous, je serais honoré de vous toucher la main. »« Oui, dit Salvatore, vous voulez vous assurer, n'est-ce pas, de quelle force est la main que vous toucherez, et en la voyant petite et blanche, vous croyez qu'elle est facile à briser dans la vôtre. Encore une erreur dont il est bon de vous faire revenir, cher monsieur Gibassier, et je ne vous demande que le temps de mettre un gant. » Salvatore désarma son pistolet, le mit dans sa poche, passa à sa main droite un gant de couleur foncée, comme les élégants en portent le matin, et tendit à Gibassier une main qui, pour la délicatesse, n'avait rien à envier à une main de femme. Gibassier, plein de confiance, laissa tomber sa lourde main dans celle qui lui était tendue et essaya de l'envelopper de ses doigts noueux. Mais à peine les deux mains se furent-elles touchées que la figure de Gibassier commença par exprimer la surprise et, passant peu à peu par toutes les nuances d'une douleur croissante, en arriva à l'angoisse la plus désespérée. Ah, « Sacrebleu, ah, mille tonnerres, mais vous me brisez la main » cria-t-il. « Grâce, grâce, grâce !» Et il tomba à genoux devant Salvatore, dont le gant avait craqué sous l'effort qu'il avait fait, mais dont le visage avait conservé son expression souriante. Salvatore lâcha la main qu'il broyait dans la sienne au moment où le sang commençait à s'en échapper par-dessous les ongles. « Là, fit-il, pour votre propre gouverne, monsieur Gibassier, et pour aller au-devant des dangers auxquels votre ignorance pourrait vous exposer, Je tenais à vous prouver que si je me suis, vis-à-vis de vous, servi d'une arme quelconque, ce n'était qu'afin de ne vous toucher qu'à la dernière extrémité. Vous avez désiré que je vous fisse l'honneur de vous donner une poignée de main. Tâchez de vous souvenir longtemps de l'honneur que je vous ai fait. Ah, sacrebleu, oui, je m'en souviendrai, je vous le promets, dit le forçat, en décollant avec sa main gauche les doigts de sa main droite incrustés les uns dans les autres. Merci de la leçon, monsieur Salvatore, elle me profitera, et vous n'aurez pas à vous en repentir. Un homme aussi bien averti que je le suis en vaut au moins deux. Abrégeons, dit Salvatore. Vos derniers ordres? À 6 heures et demie, vous serez chez Monsieur Gérard. Vous ne le lâcherez qu'à 8 heures et demain matin, vous viendrez toucher vos 5 000 francs restants chez moi, rue Mâcon, numéro 4. Moyennant quoi, Monsieur Pétrus, votre prétendu filleul, sera parfaitement quitte envers vous de l'avance que vous lui avez faite. Cela suffit. D'ici là, seulement, mettez-vous bien en tête qu'au premier mauvais tour que vous me jouez, vous êtes un homme mort, soit de mon fait, soit de celui de la justice. Je vous promets de ne pas penser à autre chose, répondit le forçat, en s'inclinant humblement devant Salvatore, qui descendit rapidement l'escalier et alla retrouver Jean Taureau, qu'il avait laissé en exploration sur l'esplanade de l'observatoire.